Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Kipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour. Ça, c'est la censure, ça. Bonjour, on a dit. Hein.
Bonsoir et bienvenue.
À cour d'honneur.
Saison 5, épisode 18.
Ah, cher auditeur, on a dû vous manquer après 4 semaines d'absence en animation.
En tout cas, vous nous avez manqué.
Heureusement, on reprend les rênes. On a abrité du vent et de la pluie. Merci le mois de mai. On peut pas vraiment faire ce qui nous plaît. Allez, préparez-vous à une heure de pur plaisir et de kiff.
Vos guides pour visite audio sont également...
Vos boss lady préférés.
Swan.
Et Ellie.
Et oui, on n'est pas révolus. Ah, on vous réserve une trame de ouf et on vous parle pas du fou du tram.
Ce soir, on se pose toujours cette même question.
Mais c'est quoi être étudiant à la Sorbonne? Et on vous donne la réponse dans Cours d'honneur, votre magazine préféré d'info et de culture.
Qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus.
C'est en direct un mercredi sur deux.
Ou un samedi sur deux sur Radio Campus Paris.
Pendant une heure, on va...
parler de jeux vidéo.
Ça s'appelle comment la prochaine PlayStation?
Bah, je peux pas le dire contractuellement, c'est impossible à dire.
Vas-y.
Eh, vous fermez vos gueules.
Vas-y.
La PlayStation 5.
De chant.
Ok, c'est bon.
Parfait la balance. Je suis désolé, faut que je me chauffe la voix.
Aïe aïe aïe.
J'ai mis un peu de temps. Bonsoir.
Ouais, bonsoir, ouais. C'était l'italien là ?
Et de Bass Lady.
Une BBL, en gros, c'est une chirurgie qui permet d'avoir un postérieur plus gros.
Voici nos promesses.
Avec la meilleure des équipes pour vous servir.
Mais tout d'abord avec toi, Ellie.
Et oui, bonsoir, bonsoir Swan, bonsoir tout le monde. Moi, je sais préparer une petite chronique pavée sur les femmes à la Sorbonne. Je n'en dis pas plus, vous verrez. Et aussi avec toi, Swan.
Mais oui, bonsoir, bonsoir Ali, bonsoir tout le monde. Moi, je vous ai préparé un super reportage sur la clé des champs ensemble, ainsi que Sorbonne en personne sur Alexandre V, on ne s'arrête jamais.
Parfait, en plus de ça, nos chroniques se suivent, donc j'ai bien hâte.
Yeah.
Et on dit bonsoir aussi à Mathilde.
Donc moi, je vais vous parler des années 80, et puis on va aussi parler de quelques bons plans pour un petit peu mieux passer cette période d'examen.
On a hâte de t'écouter, Mathilde. On dit bonsoir aussi à Lavinia.
Moi, je vous ai préparé un micro-trottoir sur les jeux vidéo.
Très bien, on a hâte d'entendre tout ça. On dit aussi bonsoir à Romain.
Bonsoir, alors moi je vous ai prévu une interview au sujet du festival Courte Échelle organisé par Télé Sorbonne.
Ça, j'ai vraiment trop hâte de cette interview. Bonsoir aussi à Elias.
Et bonsoir, bonsoir, toujours très content d'être là avec aujourd'hui des petits soucis avec Thomas qui s'est endormi sur la console. Mais aujourd'hui, moi je vous ai préparé un Sorbonne in Love, donc l'histoire d'Agathe et Ewan. On verra ça très beaucoup plus.
Et je vomis. Sorbonne in Love, on adore. Pas Swan apparemment, mais bon, c'est ok. Et bonsoir aussi à Clara.
Et bonsoir les boys ladies. Bon, j'avoue, vous gérez tellement bien l'animation que c'était cool, mais je vous laisse les rênes. Alors moi, ce soir, ça va être la carte postale. On va aller dans les couloirs de la Sorbonne.
On a très hâte et merci, c'est tellement généreux de ta part. On embrasse aussi Jade qui se passe de nous, mais dont on ne se passe pas.
Merci également à notre invité Maqueta d'avoir répondu à notre invitation pour l'interview.
Et notre madré Thomas Schnell. Excuse-moi, bonsoir.
Non, ouais, mais bonsoir. Bonsoir, désolé, hein, désolé pour tout ça, je transpire un peu de ce côté-là.
Et donc oui, bonsoir Thomas, toujours là, toujours muet, bah, apparemment pas, mais bon. Allez, que vous soyez aussi en train de combattre l'envie de sécher ce CM pour faire des incantations ou arrêter cette pluie.
Ou en train de rattraper ce cours que vous avez séché.
Ou aussi de pleurer devant vos révisions des partiels.
On vous accueille parmi nous pour la prochaine heure.
Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment...
Carte blanche.
Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai parfois la nostalgie, mais d'une époque que je n'ai même pas connue. Et apparemment, je ne suis pas la seule, puisque Mathilde a décidé de remonter le temps pour nous prolonger ou replonger pour les plus âgés dans les années 80.
Est-ce que c'était mieux avant ? C'est la phrase un peu bateau qui ressort souvent, puisqu'après tout, comme l'a si bien dit Téléphone, on rêve tous d'un autre monde. Mais quand même, les années 80, c'était the place to be, ou plutôt the time to live, tant c'était une époque de révolution couronnée d'un optimisme de fond inégalé. D'ailleurs, selon un sondage, les Français ont le sentiment aujourd'hui que leurs enfants vivront moins bien qu'eux, ça en dit long. Mais bon, je comprends pourquoi ils raisonnent ainsi. Les années 80, c'était 10 ans de faites ce qu'il vous plaît. Chagrin d'amour l'a chanté en 81, chacun fait ce qui lui plaît, et le tout avec désinvolture. C'est vrai quoi, les gens ne culpabilisaient pas de leur consommation à l'époque. l'époque. C'était le début de la grande distribution, des centres commerciaux. C'était aussi le moment où tout le monde commençait à prendre l'avion et il n'y avait pas encore de conscience écologique. Aujourd'hui, vous possédez une voiture et qui plus est essence, vous êtes le dernier des connards anti-écologistes, hein, franchement. Enfin bon, les années 80, c'était également l'effervescence de la télévision et des émissions inédites qui possédaient une liberté de ton assez folle, comme Champs-Élysées présenté par Michel Drucker. Ces années-là ont aussi vu la naissance du Téléthon en 87, le lancement de la première navette spatiale américaine, la chute du mur de Berlin en 89, bref, une période de progrès, d'évolution, qui était alors perçue comme uniquement positif, euphorisant, tandis qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait peur et nous fait rêver de revenir en arrière. En fait, avant, ils allaient en l'occurrence de l'avant, ils avaient de l'espoir, et même si le contexte socio-politique était tendu, il était porteur de changement. Le monde entier se mobilisait pour défendre de nobles causes, et on se souvient tous encore aujourd'hui de l'iconique Live Aid avec Freddie Mercury, Bob Dylan, David Bowie et j'en passe, ou encore du concert SOS Racisme, Place de la Concorde en 85. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus fantasmer les années 80, qui ont tout de même connu l'arrivée du sida, le chômage de masse, et pour les femmes, la vie restait compliquée. De ce point de vue-là, il y a du progrès de nos jours avec le hashtag MeToo, mais on ne peut pas nous en vouloir d'être nostalgique de cette époque que l'on n'a pas connue, marquée par l'explosion de la pop culture et du sentiment que la politique pouvait changer les choses. Alors les années 80, c'était peut-être juste une illusion, mais franchement, elle avait de la gueule, cette illusion.
Merci Mathilde, j'avais limite l'impression d'être dans juste une illusion, c'était parfait. sur ce, il est 20h08 sur RSU et 18h08 sur Radio Campus.
Et merci pour cet excellent édito, vraiment. Allez, fun fact.
Vous avez déjà entendu parler du mal du siècle ?
Certaines personnes ne pensent pas appartenir à leur génération et quand on parle des années 80, j'ai une nausée de nostalgie, j'avoue.
Ouais, bah on aurait tous préféré que tu aies vécu à cette période, ça nous aurait évité ta présence, mais t'inquiète, dans la vie.
Il y a des hauts.
Il y a des bas.
Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Alors que les jeux vidéo deviennent de plus en plus populaires parmi la jeune génération, certains affirment que ce n'est que du divertissement, une échappatoire, voire une source d'addiction. Lavina est allée tendre le micro aux étudiants de la Sorbonne. Les jeux vidéo seraient-ils vraiment une perte de temps ?
Ah mais dans ce cas-là, ça dépend des goûts de chacun. Si tu préfères la lecture et que tu veux jamais jouer aux jeux vidéo, c'est ton problème. Pour moi, ce sera jamais une perte de temps, au contraire. J'irais même jusqu'à dire que je recommande aux gens de jouer aux jeux vidéo. Dans le sens où ça stimule le cerveau et par exemple, dans les jeux, souvent, il y a des énigmes, des trucs comme ça.
Je dirais plus ou moins, enfin, un certain temps, moi je sais que quand j'y jouais, je perdais beaucoup de temps. Enfin, je voyais pas le temps qui passait. Mais en fait, par moment, les jeux vidéo, ça a des fonctions, on va dire, cognitives qui sont assez bénéfiques. Bah, je sais que, par exemple, des jeux d'exploration comme Uncharted, moi, ça m'aidait beaucoup, en fait, à réfléchir. Et, enfin, à avoir des intuitions, à réfléchir sur l'espace, etc.
J'ai du mal à penser à un exemple de jeu vidéo qui n'implique pas du divertissement. Mais je pense aussi que la plupart des jeux vidéo peuvent inclure beaucoup plus que du divertissement. Par exemple, il y a quelques années, les jeux vidéo Among Us étaient très connus. Et j'y jouais tout le temps, et en ligne, avec des gens que je connaissais pas. Et juste du fait de parler avec eux, ils étaient très sympas et on a fini par créer un groupe entre inconnus, malgré le fait qu'on vienne tous d'endroits tellement différents. Mais on est devenus très amis et même bien longtemps après qu'on ait tous arrêté de jouer au jeu, on a continué de se parler.
Peut-être que aussi on est dans une logique de production et il faut sortir un peu de cette logique-là parce que c'est bien aussi de crocheter tout ça, mais quelque chose qui sert pas à grand-chose et qui ne produit rien, c'est pas non plus une perte de temps en soi. Après, il faut aussi que les autres choses dans notre vie soient assez ordonnées quand même, parce que dans ce cas-là, c'est une perte de temps.
Alors, pour commencer, je vais vous donner une petite statistique qui a été faite par Médiatrice, est-ce que je me trompe pas ? Celle, donc on va dire celle, officiellement. En 2025, parmi les joueurs en France, 88% sont adultes, donc ont plus de 18 ans. Est-ce que vous faites partie de ces 88% ?
Oui. Pas du tout. J'en faisais partie à une époque, mais plus trop maintenant. Et mon frère qui est plus jeune en fait partie, je pense. Mais tu vois, il est plus jeune. Je sais pas si ça en fait partie.
Ouais, moi aussi, c'est quand j'étais plus jeune, les jeux vidéo. Et ça s'est arrêté à 13-14 ans.
Par nécessité ou est-ce qu'il y a eu un changement de mentalité ?
Non, il y a un moment, moi j'ai eu la Nintendo DS vraiment basique, old school. Voilà, la mienne en fait. Et j'y jouais beaucoup, je faisais des soirées pyjama. Je dirais pas quel jeu c'était, mais c'est trop bien, s'occuper des petits animaux dans la ferme.
Enfin, ça
mais c'était
très
mignon.
Là.
Non, c'était très mignon. Je développe, c'était très mignon. Et après, pendant les longs trajets en voiture aussi, je jouais beaucoup à la DS. Et après, sur la tablette un peu. Et en fait, peut-être, il y a eu un petit, un petit tournant dans le sens où il y a des moments où j'ai commencé à passer une heure et demie, et du coup j'avais mes devoirs après à faire, j'étais au collège, et à un moment j'ai fait « Ah non, ça me panique là, j'ai passé trop de temps », et j'ai tout supprimé, et puis voilà, j'ai quitté un peu.
Ah, donc t'es vraiment passé du tout au rien en fait.
Ouais.
Mais est-ce que du coup on peut dire que c'est pas vraiment une perte de temps, mais c'est plus quelque chose qui nous fait à chaque fois remettre à plus tard ce qu'on s'apprête à faire maintenant? Je me prends pour exemple où Covid... j'ai installé les Sims et je n'ai fait que ça de mes journées.
Ah, les Sims, nostalgie.
Je n'ai fait que ça de mes journées. Et en fait, heureusement, c'était sur l'ordinateur de ma sœur et donc je n'ai plus pu y jouer depuis beaucoup d'années. Et voilà, pendant les vacances, j'ai réinstallé les Sims. Voilà, comment vous dire que je dors moins du coup. Après, il y a moins ce truc de perte de temps puisque c'est pendant la nuit. Mais c'est quand même chiant et c'est limite une addiction parce que c'est quelque chose que tu as toujours envie de faire. Il y a toujours des trucs à faire.
Après, je pense que ça dépend aussi comment tu utilises le jeu vidéo. Je pense que ça peut être un moment récréatif, mais ça peut aussi être un moment de procrastination, en fait. Donc, tout dépend comment tu l'utilises.
Oui. C'est vrai que ça peut être autant bénéfique que pas bénéfique.
Oui, mais du coup, c'est pas productif dans tous les cas.
Bah, ça peut être hyper productif. Regarde, par exemple, aujourd'hui, il y a du e-sport, ça s'est vachement développé. Il y a des événements comme le The Event, par exemple, où c'est tous des gamers, où ils jouent pendant un certain temps en live et ça permet de récolter des fonds pour des associations. Donc ça peut être hyper bénéfique si c'est mis à bon escient, c'est un peu comme tout. Mais
juste
ça peut pas
si on met ça dans le contexte d'une personne, pardon. Si on met ça vraiment, hormis le contexte de groupe, parce que dans tous les cas, tout est bénéfique si tout l'argent, parce que tu as eu des gens, tu es récolté un, ça revient à des sources. Si c'est pour une personne.
Même là, ça peut être bénéfique. Par exemple, toi qui joues aux Sims et moi aussi beaucoup. d'ailleurs, fun fact, j'ai fait crasher l'ordinateur de ma mère parce que j'installais trop de mods. Bref.
J'ai peur de le faire sur mon Mac.
Par exemple, tu vois, dans les Sims, tu peux créer, tu peux faire ta propre maison, tu peux faire des trucs. Et justement, en installant encore plus de mods via des sites pirates, voilà. tu peux étendre ta créativité, tu peux. Enfin, je sais pas.
Bon, c'est... Oui, mais la question, c'est dans la vraie vie, genre, mis à part ce truc d'association, etc., la production pour toi, c'est zéro.
Est-ce que ça vous rend heureux de jouer aux Sims? C'est ça, c'est du divertissement,
c'est
donc tant que ça vous fait plaisir.
Mais tu disais que ça te faisait perdre des heures de sommeil.
Voilà.
Ah oui, bon, après, si tu joues à 3h du mat aussi.
Évidemment, tout est dans le temps, dans le jugement.
Oui, mais comment réussir quand c'est comme pour TikTok, tu vois, où on peut passer des heures parce que l'heure n'est pas affichée.
Temps d'écran, temps d'écran.
C'est ça, temps d'écran.
Ils sont forts.
Après, aussi, il y a des jeux vidéo qu'on peut même questionner comme des formes d'art. En fait, c'est limite des jeux vidéo très détaillés qui peuvent inspirer des artistes, des personnes qui veulent travailler dans le monde du jeu vidéo. Donc, je pense que c'est pas seulement récréatif, ça peut être aussi quelque chose d'artistique. Et même, ça peut être le boulot de quelqu'un en fait. Quand il joue aux jeux vidéo, il se dit ok, c'est mon boulot. Par exemple, le mec de chez Micromania, il se dit ok, quand j'ai joué à ce jeu-là, je vais me renseigner. Mais vous rigolez, mais c'est vrai, j'ai fait un entretien chez Micromania et le mec m'a fait ok, il va falloir que tu joues à des jeux vidéo, que tu les testes pour pouvoir te renseigner le client.
Et ça, c'est un vrai truc, parce qu'il y a le jeu sur vous voyez, les films Avatar. Il y a un jeu qui est sorti récemment dessus, il est nul, vraiment, il est vraiment nul, il n'y a rien à faire, c'est simple et tout ça. Et par contre, c'est extrêmement beau, donc ça rejoint ce que tu disais.
Après, est-ce qu'il y a besoin forcément d'être productif tout le temps? Est-ce que ça peut être
juste... Le dilemme de notre génération.
Ouais, voilà, c'est ça. On fait tout le temps plein de trucs avec des emplois du temps parfois très très chargés. Mais des fois, c'est bien aussi de se dire, je prends du temps pour par exemple jouer aux jeux vidéo. Ou comme disait une autre personne dans le micro trottoir, de faire du crochet ou de lire des livres. De se dire, c'est mon moment à moi où je suis pas productif et où ça casse le train-train quotidien, on va dire. Où il faut toujours faire quelque chose. De se dire, là... je fais rien ou je joue à un jeu vidéo et ça me fait du bien juste.
On a le droit
de ça aussi. Voilà, c'est ça.
Ouais, je suis d'accord.
C'est un plaisir et c'est du partage. Enfin, vous faites pas de Mario Kart avec vos amis?
Avec des amis, oui.
Plus.
Allez, en tout cas, moi j'en connais une certaine perte de temps, c'est celle de jouer au jeu toute la nuit et se lever à midi en plein été. Bam, une journée de beau temps de gâcher. Allez, on va éviter ça pendant les vacances et en attendant, on se met dans l'ambiance Piña Colada avec le nouveau son Eurosummer de Zara Larsson et Shakira sur Cours d'honneur.
you down, baby. Let's make a mess, maybe. Never look back.
Vous venez d'écouter Eurosummer de Zara Larsson et Shakira. Il est 18h23 sur Radio Campus Paris et 20h23 sur Radio Sorbonne. Et en parlant de notre chère princesse de la pop suédoise, Zara, vous avez vu sa performance au festival Coachella ? Même si on boycotte Coachella, c'était très sly. On passe maintenant des festivals au plateau de cinéma avec une invitée qui fait bouger les lignes du court-métrage étudiant. Tout de suite avec Romain.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste. Mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Bonsoir Maqueta, merci d'être avec nous ce soir.
Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation.
Eh bien, il n'y a pas de quoi. Vous êtes responsable de coordination du festival Courte Échelle, un festival national de courts-métrages étudiants organisé par Télé-Sorbonne depuis 2001. Les projections commencent le 26 mai et on va essayer de comprendre ce qui fait l'identité de ce festival avec vous aujourd'hui. La sélection officielle 2026 vient d'être annoncée. Selon vous, qu'est-ce qu'elle dit de cette édition justement ?
Déjà, je suis très fière de la sélection officielle qu'on a cette année. Faut savoir qu'on a reçu plus de 660 films et qu'on va vraiment crescendo depuis la création du festival, mais vraiment là depuis 2-3 ans. C'était très compliqué de faire un choix, mais on a réussi à avoir une grande diversité en termes des thématiques qui sont représentées, en termes des écoles aussi. Qu'on a représenté dans la sélection officielle, parce que c'est important pour nous d'avoir de tout. Certes, on a forcément des films d'école, notamment pour la catégorie animation, mais on a aussi des films d'étudiants qui sont dans des cursus liés au cinéma à la fac, ou même qui font totalement autre chose et qui font du cinéma et qui font des trucs très chouettes.
Cette année, vous introduisez justement une catégorie clip. Pourquoi maintenant, alors que les étudiants en produisent depuis longtemps ?
Alors, la catégorie clip, elle a été introduite l'an passé, donc à l'édition 2025. C'est un format qui nous tenait à cœur, moi personnellement aussi, parce que je fais de la musique. Mais en fait, le format du clip, c'est un peu une porte d'entrée assez facile et très populaire pour les personnes qui veulent se lancer dans l'image en règle générale, parce que tout le monde écoute de la musique, surtout dans notre génération. Et c'est un peu un format quand on n'a pas de thunes et qu'on n'a pas beaucoup de moyens techniques, c'est quand même possible de faire des clips même au téléphone, quoi. Donc ça ne dure pas longtemps, c'est un bon moyen de s'exercer et surtout avec pas beaucoup on peut quand même faire des trucs super cool. Donc nous on trouvait ça totalement normal de se dire que comme on introduit plusieurs catégories, parce qu'on en a 5 actuellement, c'était logique de mettre le format du clip.
Bien sûr, mais pourquoi maintenant et pas avant ?
Alors il faut savoir que le festival du coup est organisé par une asso étudiante, que d'année en année il y a des personnes qui restent, mais c'est des équipes qui se renouvellent. Nous, il y a 3 ans, quand je suis arrivée dans l'organisation du festival, il y a eu une volonté de le faire grossir, et on est passé donc de 3 catégories à 4 en incluant l'expérimental, et donc dans cette volonté aussi d'essayer d'ouvrir un peu la voix à plusieurs personnes, eh ben, on a aussi rajouté le clip. Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt ? J'étais pas là avant, il y a 3 ans, donc je ne pourrais pas te donner d'explication autre. Mais voilà, en tout cas, nous, on avait envie de mettre ça à l'honneur maintenant parce qu'on trouvait ça normal. Et peut-être que dans les éditions précédentes, d'ailleurs, il y avait aussi des clips qui étaient sélectionnés, mais sous une autre forme de catégorie, quoi.
Dans cette logique de changement, le festival existe depuis 2001, mais il a été renommé Courte Échelle il y a quelques années. Avant, il s'appelait comment et pourquoi ce changement à ce moment-là ?
Alors, avant, le festival s'appelait le... Alors, c'est toujours le Festival National du Court-Métrage Étudiant. L'acronyme, c'est FNCME. On trouvait ça un peu barbare, pas hyper sexy, on va dire. Donc voilà, il y a 2 ans, enfin 2022 ou 2023, l'édition 2022 en tout cas, à l'été, on s'est dit, bon, gros rebranding, entre guillemets, ce serait cool d'avoir un nom un peu plus accrocheur qui fasse aussi un petit jeu de mots et juste pour avoir une identité un peu plus concrète et plus parlante pour le public. Et donc voilà, je ne sais plus trop comment ça s'était passé, mais on a fait plein de propals, petit brainstorming, et puis Courte Échelle est revenu et on aimait beaucoup ce que ça signifiait. C'est quelque chose qu'on retient facilement, donc voilà.
Est-ce que vous avez l'impression que les courts-métrages étudiants racontent quelque chose de votre génération aujourd'hui ?
Forcément. Forcément, ouais, je pense que... Alors, je sais pas si le fait que ce soit des courts-métrages étudiants ajoute quelque chose à cela, mais je pense qu'on a on est une génération qui a beaucoup de choses à dire et qui est en permanence en recherche de lieux et d'espaces, justement, pour s'exprimer et pour surtout être entendu. Parce que c'est bien de faire du bruit, mais quand on fait du bruit dans du vide... ça sert pas à grand chose et je pense que la volonté justement de notre festival c'est déjà avant tout d'être un espace de créativité et de donner la possibilité à des personnes qui sont talentueuses et qui ont des choses à dire et à montrer de pouvoir l'être de la meilleure des manières, on va dire. Et puis on a aussi un axe un peu plus engagé où on a envie justement dans la diversité qu'on représente de parler de tout. Et donc, il y a des sujets plus politiques. On retrouve dans notre sélection des sujets qui parlent de la géopolitique actuelle, des choses plus intimes, des choses peut-être plus artistiques ou sans message particulièrement engagé. Mais c'est aussi ce mélange-là qui nous tient à cœur. Mmh.
Vous mettez en avant du coup, des valeurs comme la gratuité, l'éco-responsabilité, le militantisme. Mais concrètement, ça vous oblige à renoncer à quoi ?
Je ne crois pas qu'on se sente, frustré par ce parti pris de... Je dirais pas non plus qu'on a un festival militant parce que c'est pas non plus l'axe qu'on défend en priorité, mais notre but c'est vraiment de créer un espace pour tous les sujets et toutes les personnes qu'on a envie de mettre en avant. Donc voilà, l'éco-responsabilité, pareil, c'est un axe qui est arrivé il y a 2-3 ans quand on a décidé de repenser un peu ce qu'était Courte Échelle et ce qu'on voulait transmettre aussi comme valeur. Certes, on a un festival où ça reste une petite échelle et on n'est pas de toute façon un festival qui pollue forcément énormément, mais voilà, on trouve que c'est important de parler de l'éco-production dans le cinéma, parce que c'est un truc qui est souvent évacué dans les débats alors que c'est hyper important. Et je ne sais plus quel autre... Axe, tu avais évoqué.
L'éco-responsabilité, la gratuité, oui. C'est bien en gros dans l'édition.
La gratuité, ça c'est vraiment un principe, je crois, qui existe depuis le début. Et en tout cas, nous, c'est vraiment une ligne directrice sur laquelle on ne veut pas... C'est vrai que, pour le coup, tu me parlais de ce qui peut être bloquant. Nous, on ne trouve pas du tout ça bloquant, mais c'est vrai que ça peut être compliqué parfois sur certains événements qu'on veut organiser. Quand il n'y a pas de manière de récupérer des fonds derrière, par exemple quand on veut collaborer avec d'autres collectifs artistiques, culturels, associatifs, on sait que l'argent qu'on va mettre dans la location d'une salle, etc., on ne va rien récupérer derrière. Mais en même temps, on est aussi financé par des sources publiques qui sont les universités, le CROUS, qu'on remercie beaucoup d'ailleurs. c'est hyper important pour nous que ça reste complètement accessible et c'est pour ça que ça restera gratuit tout le temps pour tous les événements.
Au sujet de ces courts-métrages, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous voyez beaucoup et dont vous commencez un peu à vous lasser?
Je dirais pas que c'est de la lassitude. Moi, à titre personnel, c'est toujours un plaisir de voir... déjà les films qu'on nous envoie et de voir en tout cas les films qui ont été sélectionnés en compétition officielle. Je trouve que c'est toujours très dans l'air du temps ce qu'on reçoit. C'est compliqué de parler de lassitude quand même, et ce serait de ma part de porter un jugement sur les films, et je pense que c'est pas mon rôle, mais ça se renouvelle quand même plutôt bien d'année en année. Je sais que là, cette année, on est particulièrement content, par exemple, de la catégorie expérimentale, où on a vraiment eu une vraie recherche sur tous les films qu'on a reçus. On en reçoit beaucoup. Et ça nous étonne toujours un peu parce que, pareil, ça reste une catégorie assez récente. Et on ne regrette pas du tout, du coup, de l'avoir créée parce que c'était nécessaire, quoi.
Et donc, il n'y a aucun court-métrage dont le thème est redondant en général qui sont pas sélectionnés?
Alors on choisit pas non plus nos courts-métrages forcément que en fonction des thèmes. C'est vrai que cette année, pour vous donner un exemple, on a reçu pas mal de films qui parlent de la question du deuil. Donc c'est assez pesant quand on en enchaîne beaucoup à la suite. Donc ouais, il y a beaucoup les sujets familiaux, relations mère-fille, beaucoup, avec une vision de la mère qui est parfois assez sombre, voilà. La question du deuil, des personnes âgées, qu'est-ce qu'on a pu recevoir aussi ? Des sujets liés à l'enfance un peu, surtout pour le cinéma d'animation, et des documentaires, on a vraiment de tout. Il y en a qui parlent de sujets comme la guerre, d'autres qui sont beaucoup plus des portraits intimes, familiaux, ou sur un ressenti personnel de comment on se sent dans la société, il y a de tout. Quoi.
Et à contrario, c'est quoi le moment où vous dites qu'on voyait un court-métrage, ok, celui-là, on le garde ?
Parfois, je pense qu'il y a des évidences ou des coups de cœur. Je repense au documentaire de l'an passé qui a été primé... Enfin, qui a remporté du coup le prix du jury professionnel dans cette catégorie, où c'était un peu un ovni, on va dire, parmi les autres documentaires, qui était totalement absurde, mais qui était super bien construit, et je pense qu'il faisait un peu l'unanimité quand on l'a mis dans la sélection, et c'était pas trop étonnant qu'il soit dans la sélection, enfin, qu'il remporte le prix. Dans les critères, comme je disais, on fait attention aussi en termes de représentation des écoles qu'on a. C'est rare qu'on mette deux fois la même école dans une même catégorie, encore plus en animation. Et là, d'ailleurs, cette année, on a réussi à avoir vraiment que des écoles différentes, ce qui est très rare et on était assez contents de ça. Mais voilà, après, on essaye quand même d'avoir une variété en termes de thématiques, etc., pour pas qu'il y ait une sorte de thème qui relie tous les films, parce que justement, on a fait le choix aussi de pas avoir de thème dans les films qu'on reçoit pour le festival.
Quelle a été pour vous la plus grande difficulté cette année dans le rôle de coordinatrice ?
Oula. Ça reste une expérience très très chouette. Je pense que la difficulté, elle réside dans le fait que ça reste du bénévolat. On est tous bénévoles et d'autant plus aussi tous étudiants. Et on a parfois des jobs à côté et donc ça prend beaucoup de temps. Parce que en fait, ça devient presque une sorte de métier à part entière de gérer l'organisation d'un festival, surtout avec les ambitions qu'on a. Mais ouais, la gestion peut-être des équipes et de se répartir bien les rôles et de savoir quoi prioriser quand en fonction des échéances. Mais c'est super chouette, sinon.
Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette interview et pour terminer, la question rituelle de l'émission, que représente la Sorbonne pour vous aujourd'hui ?
La Sorbonne pour moi aujourd'hui, je pense que c'est compliqué. Je pense terrain d'expérimentation pour moi, parce que quand je suis arrivée, j'ai fait ma L3 ici et j'étais un peu perdue. Et justement, le fait de tomber sur des associations, c'était trop cool. Et bah, Télé Sorbonne, l'asso qui organise le festival, c'était un bonheur de les rencontrer. Donc voilà.
Merci beaucoup Maqueta d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable de coordination du festival Courte Échelle dont les projections débuteront le 26 mai. Merci encore pour cet échange et à très bientôt.
Merci, à très vite et venez tous et toutes, ça va être super.
Merci beaucoup à Romain pour les questions et merci infiniment Maqueta pour les réponses. T'inquiète pas, je pense qu'une grande partie de l'équipe va venir. Bon, je n'ai pas pu être présente par contre, il y en a qui sont venus, il me semble, pendant les vacances, voilà. Et c'est bien l'un de mes grands regrets du mois d'avril. Par contre, ce que je ne regrette absolument pas, c'est d'avoir pu faire un reportage de la meilleure des chorales de Sorbonne Université.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau, et là, c'est le drame.
Après chaque émission de Cours d'honneur, lorsqu'on sort éreinté de notre émission, on ne peut s'empêcher de tendre l'oreille, car de l'amphi de l'autre côté du studio sortent des chants merveilleux. Swan s'est infiltré aux côtés de Benoît Rives, qui s'occupe des chœurs et orchestres depuis près de 30 ans. Et parce qu'elle était cachée dans les estrades avec un micro à la main, vous pouvez de suite écouter le reportage de Cours d'honneur sur la clé des chants ensemble.
Vous venez d'entendre l'échauffement de la clé des chants ensemble, une chorale de Sorbonne Université. Dans l'amphi Guizot, Benoît Rives se place en bas des escaliers, là où les voix résonnent le plus. Un peu plus tôt, j'ai échangé avec Lauriane, choriste depuis 8 ans.
Avant d'entrer dans la chorale, j'avais pris 2-3 cours de chant classique et j'avais fait du piano pendant 10 ans, ce qui me permettait de chanter juste, mais j'avais pas vraiment de technique vocale établie.
Elle dit pourtant qu'elle n'a pu discerner une véritable évolution que depuis 2 ans, et elle est plus à l'aise et sa voix porte plus.
Petit à petit, à force de faire partie du groupe, de faire des concerts chaque année, beaucoup, on finit par s'habituer à sa propre voix, à la place qu'on prend. Et le fait de s'entraîner chaque semaine pendant des années, ça développe forcément la puissance de timbre.
La Clé des Chants Ensemble, c'est une association partenaire qui regroupe plus de 80 élèves inscrits et notés. Comme une UFR normale, les participants travaillent autant la théorie que la pratique. Alors j'ai eu la chance d'assister à ce qui ressemblait presque à un concert, tant leur niveau donne l'illusion d'une véritable représentation. Forcément, j'étais émue, mais aussi impressionnée, bluffée, admirative, et la liste pourrait continuer. Plus tard, pendant qu'on range les partitions et les instruments, Benoît Reeves m'explique que tous les profils sont les bienvenus, du plus novice au plus expérimenté.
Et c'est que vraiment, tu peux arriver à la chorale avec zéro niveau. Par contre, ce que je ne vais pas accepter, c'est quand après un an, tu n'as pas avancé. Donc quelqu'un qui n'a pas le niveau au moment d'un concert, ben, c'est pas grave, il interviendra au concert suivant. Et puis si vraiment on a des difficultés, vraiment des difficultés de notes, d'audition qui relèvent de l'orthophonie, on les envoie souvent voir soit un prof, soit un orthophoniste, et on attend qu'ils soient prêts pour faire des concerts.
Si cela peut sembler strict au premier abord, Benoît Reeves insiste sur l'essentiel, la qualité du chant, mais aussi le plaisir qu'on y trouve. Alors la présence varie selon les rythmes de chacun, entre préparation de master, études, examens, travail ou aléas de la vie. Chaque étudiant s'investit à la hauteur de ses possibilités. D'ailleurs, le chœur n'a pas toujours été composé uniquement d'étudiants.
Au départ, c'était vraiment un chœur pour les personnels, uniquement, et j'avais pas le droit de faire autre chose que du français, du traîner, j'avais pas le droit de prendre des étudiants. Et petit à petit, on a évolué. Il y a eu un grand changement dans les années 2015-2013 quand on a commencé à faire du Queen. On a fait Bohemian Rhapsody, là, c'était le grand tournant. Voilà. Et là, on a perdu la moitié de nos altos qui avaient entre 50 et 60 ans. On a attrapé plein d'altos plus jeunes. Et là, aujourd'hui, le chœur est environ à 85% d'étudiants.
Tous participent au choix des chants, même si une organisation fine est requise pour la sélection.
Alors, on va arriver en juin, assemblée générale. Au tableau, tous les chanteurs mettent ce qu'ils ont envie de chanter l'année prochaine. Nous, on essaye d'avoir une tendance avec une partie choisie par les étudiants, une partie choisie par nous, par le chœur. Après, on doit suivre la tendance. Alors, il y a la tendance interne au chœur, il y a la tendance sociale. La guerre, par exemple, qui change tout, mine de rien, au niveau des mentalités, la tendance de l'évolution de l'université, et puis les concerts.
J'ai grandi dans la musique. J'ai décidé de devenir batteur. En arrivant en France, j'avais ni l'espace ni le temps d'avoir une batterie. Et la chorale, c'était quelque chose de facile à s'entraîner chez soi.
Vous venez d'entendre le président d'honneur Felipe, qui fait partie de la Clé des Chants Ensemble depuis 11 ans. Et c'est sa passion et son implication qui l'a mené à cette place dans la chorale. Il aidait d'abord à ranger le matériel, naturellement, puis à s'occuper de la logistique, à organiser des événements et monter des concerts.
Mais j'ai pas besoin de gérer tout seul. On est un travail vraiment d'équipe. Et je gère aussi le comité d'honneur des invités d'honneur de la chorale. Donc Hubert Reeves qui en faisait partie, Yann Arthus Bertrand, nous avons quelques célébrités qui en faisaient partie pour venir faire leur conférence pendant le concert.
Et à la Clé des Chants, c'est toujours l'amour de la musique qui l'emporte, un amour perceptible partout, dans leur échange comme dans chaque lieu qu'ils occupent ensemble. Merci à eux de m'avoir ouvert les portes de leur jardin où chaque chanteur est une fleur qui éclot et s'ouvre peu à peu, comme le décrit si bien Benoît.
Tout de suite à fond, vous êtes un peu en retard, attention, 3, 4, 1, 2, 3.
Je vous invite à venir sur la place de la Concorde ce samedi 9 mai à 17h pour profiter de leur dernier concert de l'année. Ce sera devant l'Obélix de Louxor pour être exact. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé mon reportage fait avec amour et passion. Et oui, j'ai trouvé que ça manquait de love dans cette émission. Et j'aimerais donc vous dire Bring Your Love, puisque c'est justement le titre de ce qu'on écoute tout de suite avec Madonna et Sabrina Carpenter. What are you doing here for?
Blame Your Love de Queen, Madonna et Sabrina Carpenter, je ne peux qu'être ravie de les voir ensemble. Comme au Met Gala par exemple, lundi soir, j'ai cru que j'allais pleurer tellement elles étaient belles. Il est d'ailleurs Madonna O'Clock. Non, d'ailleurs, je rigole, malheureusement. Il est 18h. Il est 18h45 sur Radio Campus Paris et 20h45 sur Radio Sorbonne. Et c'est d'ailleurs l'heure de la chronique des voix de Mathilde.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, la table!
Bon, c'est un peu la déprime en ce moment avec tous les examens qui se succèdent, mais pas de panique. Mathilde a de quoi vous remonter le moral avec des bons plans pas chers et même gratuits. Mais attention, ça reste studieux.
Étudiant mode d'emploi, sortez une feuille, prenez des notes, ça pourrait vous servir. Je partage avec vous trois bons plans qui vont vous faire un tout petit peu plus aimer la fac. J'ai dit un peu, donc on s'emballe pas non plus. Le premier tuyau que j'aurais bien aimé connaître plus tôt, c'est l'offre info que propose la Sorbonne. Et oui, en plus d'avoir Radio Sorbonne, aka votre magazine d'info étudiant préféré totalement gratuit, la faculté met à disposition un site internet, que dis-je, la caverne d'Ali Baba de l'information, plus communément appelée Europress. Europress est une base de données qui recense plusieurs milliers de sources d'informations françaises et étrangères, donc vous pouvez retrouver de la presse régionale, nationale et internationale. Et parmi les heureux élus, on compte Le Monde, Les Échos, Le Figaro, Libé, Le Parisien, Télérama, L'Équipe, Courrier International, mais aussi The Washington Post, BBC History Magazine, The Guardian et d'autres encore. Un beau pactole qui ne vous coûtera pas un sou et qui vous permettra de briller en dissertation, en société aussi, ou de préparer les concours des écoles de journalisme. Je dis ça, je dis rien. Cette offre est accessible en rentrant vos identifiants étudiants de la Sorbonne, ou alors si vous êtes branché BSB, donc la bibliothèque Sainte-Barbe juste à côté de la Sorbonne et du Panthéon, vous y avez accès avec vos identifiants de la bibliothèque qui vous sont donnés en vous inscrivant pour la première fois là-bas. Et puisque l'ambiance studieuse ça ouvre l'appétit, je vous suggère d'aller manger un bout au Crous qui propose désormais le repas à 1€ pour tous. Alléluia, ça y est, c'est entré en vigueur lundi. Bonjour les économies, bye bye la vie à crédit. Et enfin, pour bien digérer tout ça, vous pouvez vous détendre en regardant des films et documentaires normalement payants mais ici gratuits en allant sur Primo, l'autre base de données importante de la Sorbonne. Pour y accéder, vous pouvez vous rendre sur l'ENT de la fac, puis taper Primo dans la barre de recherche, vous cliquez dessus, puis vous tapez le nom du film que vous souhaitez regarder, et si vous avez de la chance, il sera proposé. Là, vous cliquez sur le lien vers la plateforme Arte, vous entrez vos identifiants de la Sorbonne encore et toujours, et le tour est joué. Voilà de quoi rendre les dernières révisions de partiels plus agréables, et parce qu'après l'effort vient le réconfort, vous pouvez vous accorder une pinte à 3,50 au 2 bis, je rappelle.
Merci Mathilde, on reste dans le studio mais avec Élise, c'est toujours dénonciateur, tout de suite dans la chronique pavée.
Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Oui, parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon, quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas.
Pendant longtemps, la Sorbonne, ce haut lieu du savoir, avait une petite particularité, disons, assez sélective. Parce que oui, à une époque, on considérait que réfléchir, argumenter, étudier, tout ça, bon, c'était une affaire d'hommes, quoi. Les femmes, elles étaient priées de ne pas trop s'en mêler. Heureusement, certaines ont décidé que ça n'allait pas se passer comme ça.
Le mois dernier, nous avons eu le plaisir de rencontrer Carole Boinet, rédactrice en chef des Arts Rock, grâce à notre chère maman Thomas, qui a aussi été à la Sorbonne d'ailleurs. Et une de ses phrases est restée gravée dans ma mémoire depuis, comme une vérité qui m'a frappée en plein visage. Car oui, comme elle le disait, en tant que femme, il y a des lieux où on l'entre naturellement et d'autres où il a fallu forcer la porte. C'est notamment le cas de notre chère Sorbonne, où pendant des siècles, c'est un peu le club très fermé des messieurs très sérieux. On y parle philosophie, théologie, science, entre hommes, évidemment. Parce que, on le sait bien, réfléchir demande des capacités intellectuelles visiblement incompatibles avec le fait d'être une femme. Logique irréfutable. Regardez la preuve avec, je sais pas moi, Jordan Bardella, Donald Trump, Pascal Praud ou encore ce mec Luke Maxer que tu as vu une fois en date et qui se frappait les pommettes pour être plus beau. Alors que bon. Bref, en attendant, les femmes, elles peuvent écouter de loin ou mieux ne pas écouter du tout. Et puis arrive le 19e siècle, lentement, très lentement, à peu près à la vitesse d'un escargot fatigué, l'idée fait son chemin. Et si les femmes pouvaient, elles aussi, étudier ? Scandale ! En 1861, une première fissure apparaît dans ce bel édifice bien masculin. Jolie Victoire Daubier décroche son baccalauréat, l'ancêtre de la boss lady moderne. Alors attention, pas parce que le système était prêt à l'accueillir, non non, mais parce qu'elle a insisté, beaucoup, très beaucoup comme on dit. Et là, panique à bord, parce qu'une femme qui réussit un examen, c'est une femme qui prouve qu'elle peut comprendre, et ça, ça complique tout. Petit à petit, les portes de l'université et donc de la Sorbonne s'entrouvrent, pas qu'entrouvertes, hein, plutôt entrouvertes, avec un petit regard suspicieux derrière, en mode « Vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit ?» Les premières étudiantes arrivent, elles sont peu nombreuses, très visibles et clairement pas attendues. On les observe, on les juge, on les tolère à peine. Dans les amphithéâtres, elles sont comme des anomalies statistiques, mais elles restent. Et parmi elles, une jeune femme venue de Pologne va tranquillement faire voler en éclats quelques certitudes. Il s'agit évidemment de Marie Curie. Elle étudie à la Sorbonne, elle excelle, elle enchaîne les diplômes et finit par devenir la première femme professeure de l'université. Oui, la première. Il a donc fallu attendre des siècles pour que quelqu'un se dise « Tiens, et si une femme enseignait ?» Visionnaire, n'est-ce pas? Et je parle pas de Bigflo et Oli. Mais l'histoire ne s'arrête pas à ces grandes figures qu'on retient parce qu'elles sont exceptionnelles. Elles se jouent aussi dans l'ombre, dans les rangs silencieux. Toutes ces étudiantes dont on ne connaît pas le nom, celles qui ont pris des notes pendant qu'on les regardait de travers, celles qui ont travaillé deux fois plus pour être prises deux fois moins au sérieux, celles qui ont supporté les remarques, les doutes, les petites phrases bien senties du genre « Vous êtes là pour trouver un mari ?» Spoiler, non. Elles étaient là pour apprendre comme tout le monde. Et petit à petit, sans trop faire de bruit ou justement en en faisant juste assez, elles ont changé le paysage. Elles ont normalisé leur présence dans un lieu qui, à l'origine, n'avait jamais été conçu pour elles. Aujourd'hui, ça semble évident, presque banal, mais si tu te sens un peu l'oreille en traversant la Sorbonne, entre les murs chargés d'histoire, tu peux presque entendre l'écho de cette vieille idée absurde que le savoir aurait un genre, et heureusement, elle a fini par prendre un sérieux coup de vieux.
Merci ma boss lady Pref pour avoir parlé de nos ancêtres, ça fait du bien de remettre les pendules à l'heure pour montrer que nos droits ne sont jamais acquis. Retenez bien que dans un an, les masculins, on vous voit et c'est moche, c'est très moche. Bref, je vais me calmer afin de transmettre paix et amour jusqu'à la fin de cette émission puisque, eh oui, c'est le thème de notre prochaine chronique, vous l'avez, je sais que vous l'avez en avant, le Sorbonne in Love.
Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Everybody's gonna love today,
gonna love today, gonna love today. La maison s'éveille, c'est un nouveau jour. C'est un nouveau monde.
Moi j'ai besoin de poésie dans ma vie, et d'aventure, et d'amour. Love, love me,
love, love. Ce soir, dans Sorbonne in Love, vous se racontez l'histoire d'Agathe et Ewan, tous les deux en troisième année de double licence histoire-sciences politiques. Ils font partie de ces couples que l'on peut voir flâner aussi bien dans les rues de la ville de l'amour que dans notre chère cour d'honneur. Et là, c'est parti à la rencontre de nos deux tourtereaux de la semaine.
L'année dernière, nos groupes d'amis respectifs se sont un peu mis ensemble. On a commencé à faire plus de cours ensemble.
Et qu'est-ce qu'ils sont beaux, nos tourtereaux de la semaine. On peut pas parler, décidément, avec notre maman Thomas. Ils se sont rencontrés sur les bancs de la Sorbonne pendant que d'autres séchaient les cours, comme quoi ça peut avoir du bon de venir au CM ennuyant, on peut y faire de belles rencontres. En tournant ce Sorbonne in Love, j'ai ressenti tout l'amour qui crève les yeux entre eux, aussi fort que celle de mon goumin Pro Max, qui en est toujours au même état qu'il y a deux semaines. Une amitié qui démarre sur les bancs de la Sorbonne, un couple qui se forme en Erasmus, on part découvrir l'histoire d'Agathe et Ewan.
L'année dernière, nos groupes d'amis respectifs se sont un peu mis ensemble. On a commencé à faire plus de cours ensemble, aller en amphi, puis sortir au resto tous ensemble. Et à ce moment-là, on se parle un peu, pas plus que ça. On est en gros en décembre de notre deuxième année. Décembre 2024, donc on attaque du coup l'année 2025. Et là, on commence à sortir plus jusqu'en mai où on prend des vacances tous ensemble à Conti. C'est là où on commence plus à se rapprocher déjà. Et après, on a commencé à vraiment beaucoup parler en juin 2025, où là, vraiment, on parle de midi à 5h du mat.
Littéralement, au début de la licence, on avait quand même les cours ensemble en amphi de RI, Relations internationales. C'était comme ça que je l'avais vu, et genre, premier petit a priori, en mode, c'est lui qui pose beaucoup de questions.
Les deux premiers souvenirs que j'ai de notre relation, c'est une fois où je suis aigri contre elle, parce que, en gros, faut savoir que du coup, elle était très pote avec une de mes amies aussi, qui s'appelle Maya. Elle s'était mise entre moi et Maya dans un cours, du coup, en deuxième année, et moi, j'étais en mode, pourquoi ? Qui es-tu? En plus, elle rigolait, elle parlait et tout, donc c'était assez drôle.
Le principe, c'est que je voulais un plus grand groupe de potes. J'avais mes potes à moi et tout, mais genre, je voulais juste faire un big groupe dans la licence et tout, avec plein d'amis. Et du coup, je connaissais Maya d'un autre TD, et j'ai dit, let's go, on va essayer d'aller lui parler en amphi. Je savais pas que ça allait le rendre aigri. J'étais juste là en mode tranquille.
Et le deuxième souvenir. Là, on est OS3, donc on doit être en novembre 2024, quelque chose comme ça. On est en amphi, et il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de monde, parce que les gens sont pas là, etc. Mais il y a quelques valeureux, dont nous deux. Et du coup, on fait des blagues, et en fait, je fais une blague sur les arbres. Je ne sais plus quel est l'état de cette blague. Parce qu'elle n'entend pas arbre, mais arabe. Ça a donné l'un de mes premiers souvenirs où une blague qui était random, qui n'avait rien donné, sonnait comme une blague tout à fait raciste dans ses yeux. Et j'ai vu, c'est le premier regard dont je me souviens de cette fille, c'est globalement un regard de « Mais qui es-tu ? Est-ce que je dois rigoler à cette blague ou est-ce que je dois partir en courant ?»
C'est vrai que genre, moi c'était juste une blague random dans ma vie, j'étais en mode, mais mec, what the fuck, qu'est-ce que tu me racontes? Mais en vrai, moi, ça m'a fait beaucoup rire pour le coup. Genre, vraiment, une fois que c'était safe, en mode, ok, la blague, c'est de la blague, et toujours là pour rigoler, donc ça me va. Depuis, on a eu des milliers de blagues, donc franchement.
On était tous les deux en Erasmus au semestre précédent, elle à New York, moi à Prague, et on s'est mis ensemble en Erasmus. C'est-à-dire que la particularité de notre relation, c'est qu'elle commence le 20 septembre, on est tous les deux partis, moi depuis deux semaines, elle depuis un mois. Et en fait, littéralement, notre relation, c'est nous deux, pendant longtemps, qui s'appelle jusqu'à, je sais pas, 6-7 heures du mat tous les jours pour moi et elle 1 heure du mat. Et on a un appel notamment de 41 heures, je crois, en complet, un mix entre Instagram et WhatsApp, ça fait en tout 41 heures. Donc ça, c'est un souvenir un peu drôle.
Marie-Juliette, deux vraiment très grosses fans de la promo, et que j'ai appelé aussi le matin même en leur disant j'ai un petit crush sur Ewan en fait. Et elles m'ont dit, oui, bon, c'est évident. Maintenant, est-ce que tu veux lui dire? Bah oui, pourquoi pas. Elle m'a dit, t'inquiète, je vais tâter le terrain. Et elle a dit à Ewan, mais au pire, il y a Agathe qui reste discuter le soir et tout, machin. Donc globalement, elle a insinué le truc, ce qui fait qu'on était tous les deux plus sereins le soir en arrivant.
Et le souvenir, par contre, le plus marquant, c'est du coup pour lui faire la surprise. Je suis avec une amie à moi qui est aussi à la Sorbonne, qui s'appelle Apolline. En fait, Apolline, on est en cours un mercredi, et elle me dit, mais en vrai, va voir Agathe, genre fais-lui la surprise. Et en fait, l'idée, au bout de quelques jours, elle commence à faire un petit bout de chemin, à tel point que, en fait, je me dis, je vais prendre des billets d'avion, mais pour vraiment lui faire la surprise. Et alors là, c'était une logistique où globalement, j'ai pris des billets d'avion en contactant sa coloc à New York, en contactant ses potes, en contactant à peu près tout le monde qu'elle pouvait connaître, globalement, en leur demandant de m'intégrer, donc elle était à Columbia, de me faire passer, etc. Et du coup, ce qui était drôle, c'est que j'ai pris un avion jusqu'à Amsterdam. Et à Amsterdam, je l'appelle en lui faisant croire que je vais à Madrid, puis Grenade. Et ensuite, en fait, je prends un avion vers New York. J'ai passé, je crois, 38 heures sans dormir. Et du coup, j'arrive à New York, et en fait, je suis dans son hall. En fait, elle s'y attendait pas du tout, parce qu'on était presque au téléphone 10 minutes avant, et elle pensait que j'étais à l'autre bout du monde.
Mais en vrai, j'avais un petit doute. Genre vraiment, ça faisait un petit bout de temps que j'y pensais un peu, parce que j'étais en mode, vas-y, qu'on était ensemble au bout de mois, je ne sais plus, et c'était vraiment genre trop cool. Et j'étais en mode, oh voilà, faudra grave qu'on se fasse des trucs. Mais il m'avait dit, je serai à Grenade, machin. J'étais en mode, oh purée, c'est trop dommage et tout. Et genre, moi j'étais là, on va faire un truc mimes, on va lui commander un éclair au chocolat à Grenade parce qu'il adore les éclairs au chocolat. Et du coup, j'ai contacté son pote à Grenade. C'était un ensemble de micmacs. J'ai contacté son pote à Grenade, j'ai dit, tu pourras aller m'acheter une pâtisserie. Le pote en question qui savait très bien qu'il allait pas à Grenade. Il m'a dit, oui, pas de souci, je lui reparle le jour J. Il me dit, mais tu sais, tu devrais peut-être acheter un éclair à New York. J'étais en mode, c'est suspect tout ça, imagine. Et du coup, en vrai, genre, j'avais des petits hints, mais sinon, c'était hyper discret. Parce que pour le coup, vraiment, quand il était à Amsterdam et qu'il me dit, ouais, j'ai un long vol et tout, mais t'inquiète, je reviens dans 9h, machin truc et tout, j'étais en mode, oh, ça va 9h pour aller Amsterdam-Grenade. J'ai pas du tout réalisé. Oui. Une fois qu'il était sur place, donc dans la salle commune, là, j'étais un peu là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Mes potes, ils me disent, reviens, machin, amène à manger. Pour lui, je savais pas. Et donc je suis en mode, ok, j'arrive et je vois tous mes potes assis bien droit sur les canapés. Je suis en mode, il y a un truc là, il y a un truc. Et du coup après je l'ai vu et là j'étais en mode, oh waouh, c'est trop bien.
Petit tuto, si un jour quelqu'un d'autre a envie de faire ça, plus il y a de gens impliqués, plus c'est la merde. Vraiment faites gaffe à toutes les variables, parce que vraiment il y a un nombre de trucs à gérer. Aujourd'hui on a emménagé ensemble, mais on a quand même un beau 30 mètres carrés à côté de Père Lachaise. Mais non, mais c'est vrai, on a quand même un beau 30 mètres carrés qui est bien aménagé. Et donc maintenant, depuis du coup janvier dernier, on a emménagé ensemble, on coule une petite vie heureuse dans notre petite retraite familiale. Non, pas du tout. C'est tout nouveau, mais c'est, pour le coup, ça se passe vraiment bien. Il y a pas de, soucis particuliers.
On va partir en Italie cet été. Donc ça va être trop bien. Première vacances ensemble. Donc franchement, c'est trop mimes.
Prenez le temps si vous aimez une personne, parce qu'en vrai, nous, on a pris quand même malgré tout entre le début où on parle beaucoup, qui est la deuxième semaine de juin, et septembre, il y a quand même 3 mois. Donc on a pris notre temps, mais en vrai, ça en vaut la peine. Si vous êtes vraiment sûr d'aimer une personne, genre doutez pas de vous, hésitez pas, parce que ça peut donner des très belles histoires qui, pour nous, durent plus de 8 mois, et on espère qu'ils dureront le plus longtemps possible.
Merci Laz pour cette chronique dégoulinante d'amour, ça m'écœure presque, ou ça m'énerve, je ne sais pas trop encore. Bref, Zara, Shakira, Madonna, Sabrina, une émission iconique remplie d'icônes ce soir, dis donc, même si on est déjà là, au final. Mais vu qu'on n'a jamais assez de divas, avec un grand D, je vous propose de vous en faire découvrir une nouvelle, c'est Sloane avec son nouveau son, Not Like Kesha, tout de suite sur Cours d'honneur.
J'arrive dans la city, le ciel a grondé. Je suis venu ici peu pour m'y amuser. Mais je suis pas comme Kesha, son air défoncé. J'ai à la bête ce soir, c'est la baby. Sans peur, sans plaire, sans verre, mon énergie veille sur la musique de ces DJ. Mais combien de temps je suis restée? J'étais comme si j'aurais pu. Mais plus rien ne sera ne comptait pour un instant. J'étais sur le dans cette femme à mon moment présent. J'ai pas mon cœur qui va brûler de cette chanson. Tap, j'ai kiffé la veille. Sans peur, sans plaire, sans verre. Mon énergie veille sur la musique de ces DJs.
très bien. Il est 19h sur Radio Campus et 21h sur Radio Sorbonne. Vous venez d'écouter Not Like Kesha de Sloane, cette nouvelle artiste qui, je sais, Ellie écoute en boucle en ce moment. Mais assez parlé de nouveau, on retourne dans le passé tout de suite avec le Sorbonne en personne.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
On en a assez de parler des jeunes, là, c'est bon, de ceux qui ont connu la Sorbonne dans les années 80 ou 60, sauf plus, on veut de la brique, on veut du médiéval, du vrai, celui qui sent la cire et l'encre. On veut connaître la vie de ceux qui ont étudié à la Sorbonne à ses débuts. Et c'est Swann qui s'en charge avec l'histoire du pape du 14e siècle pour le Sorbonne en personne.
Il y a des noms qui sonnent comme des légendes, Alexandre V par exemple. Alors on pense tout de suite à Alexandre le Grand, conquérant, empire, gloire, mais non. Non, rien à voir, c'est d'un tout autre compère dont je vais vous parler ce soir. Lui à la base, il s'appelle Pierre Philargis, il est né en 1340 en Crète, qu'on appelait d'ailleurs Candie à l'époque, et qui était un territoire sous domination vénitienne. Donc la République de Venise utilisait l'île comme base stratégique pour le commerce en Méditerranée. Pas vraiment le profil d'un futur pape, mais plutôt d'un vendeur d'huile d'olive. Et pourtant, il entre chez les Franciscains très jeune et on le remarque vite puisqu'il est brillant, ni plus ni moins un intello de la théologie comme on n'en voit plus aujourd'hui. Il est tellement brillant qu'on l'envoie à Oxford puis à Paris, donc à la Sorbonne évidemment. À cette époque, elle n'était pas encore l'imposant symbole universitaire que l'on connaît aujourd'hui, mais plutôt un collège pour les étudiants en théologie. Vous le savez tous absolument qu'elle a été fondée en 1253 par Robert de Sorbonne, qui était chaplain et confesseur du roi Louis IX. Le collège était d'abord conçu pour un lieu d'accueil pour une petite communauté d'étudiants, surtout des pauvres qui pouvaient bénéficier de bourses pour poursuivre leurs études. Il avait donc une vingtaine de pensionnaires qui vivaient et les autres étudiants étaient logés dans la rue Coupe-Gueule, qui est maintenant la rue de la Sorbonne, moins, un peu plus chic, dans des maisons offertes par le roi. Sympa le mec, non ? Quand Pierre Philargis était à la Sorbonne, elle ressemblait donc à un patchwork un peu brouillon, de petites maisons et de bâtiments éparpillés autour d'un jardin. Rien de grandiose, hein, une simplicité presque volontaire, puisqu'on y vivait durement au rythme des prières, des études, et pourtant... Derrière cette apparence modeste, le lieu prenait de l'ampleur et la Sorbonne s'imposait peu à peu comme un centre essentiel, le corps intellectuel de la faculté de théologie où les idées circulaient, s'affrontaient et se construisaient. Et donc Pierre, pendant qu'il est là-bas, enfin ici, l'Europe chrétienne est en train de se déchirer. C'est le début du grand schisme d'Occident. En gros, il y a deux papes, un à Rome et un à Avignon, et les deux s'excommunient, donc chacun se dit légitime et l'Europe se divise avec eux. C'est un véritable chaos politique, religieux, diplomatique, une guerre d'égo, j'aimerais dire une guerre de lequel aura la plus grosse foi en Dieu, bien sûr. Sa carrière d'école, évêque un peu partout en Italie, Plaisance, Brescia, Vinance, Novare, j'arrête, puis archevêque de Milan. Je m'y connais pas très bien, mais si à la Fashion Week à Milan, c'est que c'est très sûrement une bonne ville pour y être archevêque. Bon, lui, il fait pas défiler, mais presque, c'est un homme de terrain, il enseigne, il voyage, il négocie, et en 1405, il devient cardinal. C'est donc à lui d'élire le pape lors d'un conclave. Tout le monde a vu le film, c'est bon, vous situez, conclave. Il n'a alors qu'une obsession, mettre fin au schisme. Il pousse donc à une solution radicale qui est le Concile de Pise. L'idée est simple, on destitue les deux papes rivaux et on en élit un nouveau. Propre, net, sauf que les deux papes refusent de partir. Moins propre, moins net. Tout dérape un peu. En 1409, les cardinaux élisent quand même un nouveau pape. Pierre Philargis, que voulez-vous ? Fallait bien qu'il y gagne quelque chose dans cette histoire. Il devient Alexandre V. Après Alexandre IV, vous en doutez, mais ça blait pas tous Alexandre, quoi. Enfin bref. Donc, au lieu de régler les problèmes, il crée un troisième pape, trois papes, trois camps, trois vérités. Alors, ça fait beaucoup à gérer. Notre pauvre Pierre, enfin Alexandre, son pontificat ne va pas durer plus de 10 mois. Il promet des réformes, il tente de réorganiser l'église, il distribue des faveurs aux ordres religieux, mais surtout il essaye encore et toujours de recoller les mœurs sans succès. Et en 1410, il meurt brutalement à Bologne, il a 69 ans. Officiellement une mort naturelle, mais officieusement, certains parlent d'empoisonnement. Le principal suspect, Baldassare Cossa, un cardinal ambitieux qui deviendra lui-même pape juste après, sous le nom de Jean XXIII. Apparemment, il s'appelait pas tous Alexandre, c'est à s'y méprendre cette histoire. Alors aujourd'hui, l'église catholique ne reconnaît pas Alexandre V comme un vrai pape, on l'appelle un antipape. Et même ça, c'est pas si clair, parce que figurez-vous que pendant des siècles, on n'était pas si sûr de ça. Son nom a même figuré dans certaines listes officielles de papes, puis on l'a retiré, puis on a hésité, puis on a réhésité. Bref, même 600 ans plus tard, personne n'est vraiment d'accord. Et comme si ça ne suffisait pas, même après sa mort, on ne le laisse pas tranquille. Son corps est déplacé, exhumé, réenterré plusieurs fois, comme si même lui, on ne savait pas trop où le mettre. Je vous passe la liste de tous les lieux de déposition, de monuments et d'enterrements, puisque maintenant sa dépouille se trouve sous un monument à son effigie, à Bologne. Voilà, c'est l'histoire d'un pape ou un anti qui était entre deux mondes, un peu légitime, un peu imposteur, un peu solution, mais surtout problème, puisqu'en 10 mois de règne, il a réussi à transformer une dispute de couple en trouble. Même l'amant de ta tante n'a pas réussi un tel coup. C'est sûr que ça aurait peut-être été plus inspirant de parler d'Alexandre V, le roi de Macédoine, mais que voulez-vous, tout le monde n'a pas fait la Sorbonne. Oui, niveau efficacité, on a vu plus discret, mais il représentait bien l'étudiant de la Sorbonne de l'époque. Beaucoup d'ambition, beaucoup de promesses, peu de résultats, beaucoup d'échecs.
Merci ma boss, lady préférée, pour cette chronique qui sentait bon le vieux parchemin et la poussière. Ça me fait penser, si les murs de la Sorbonne pouvaient parler, tu penses qu'ils diraient quoi ?
Moi je sais pas, mais la carte possède de Clara a la réponse que tu veux, je crois.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Des portes qui claquent, des voix qui résonnent et parfois même des gens qui courent. Les couloirs de la Sorbonne voient à longueur de journée les va-et-vient des étudiants. Et nous, que voyons-nous ? Que disent les bruits du couloir de la Sorbonne ? Réponse tout de suite dans la carte postale de Clara.
Donc là, on va rentrer dans la galerie Sorbonne avec une double porte en bois, très jolie et très grande. Ça donne sur un long couloir d'à peu près une trentaine de mètres avec de beaux lustres assez ronds. On voit plein de moulures, plein d'arches avec sur les côtés des tableaux qui donnent à peu près les renseignements sur où est-ce qu'on va, avec d'autres cadres qui donnent des affiches d'informations de tous les jours. Sur la gauche du couloir, il y a un grand tableau, c'est l'étude par Henri Martin. On ne sait pas trop ce qu'il vient faire là, mais c'est joli. C'est une petite scène de campagne avec des arbres et des gens qui discutent au plein milieu. Les toilettes et la cafette, où on va prendre un café un peu tous les jours, juste à côté des toilettes. Et après, des bancs pour s'asseoir, la bibliothèque intra-universitaire qui est super grande, super belle aussi. J'y vais ouais, à peu près tous les jours, réviser les partiels. Et puis on a un autre tableau, Le crépuscule, toujours de Henri Martin. Et on voit pas grand chose, c'est vrai qu'il est très sombre. Toujours des petites scènes de beaux paysages. Et même une photo oubliée. Je sais pas ce qu'elle fait là. Une carte postale. Et après, il y a des genres de portes, on sait pas où est-ce que ça mène, qui sont gigantesques. Et on a une intersection avec un autre couloir gigantesque, qui ressemble à des couloirs de Poudlard en fait. L'escalier, je sais pas où est-ce qu'il mène, mais des bancs qui sont tout lisses, tout rigides, en bois. Encore des grandes portes avec des ateliers informatiques. Un plan aussi pour se repérer parce que c'est immense, avec 300 000 amphis. Ça, c'était l'amphi Bachelard, la première fois que j'ai utilisé le plan. Un amphi qui est, comment dire, pas fait pour les étudiants parce que c'est des sièges avec des moulures qui te rentrent dans le dos. Université Interage, je connais pas du tout. Un petit couloir assez moche comparé à l'amphi qui est à l'intérieur. Je sais pas, il est tout blanc, il est tout triste. Et il n'y a plus de moulures. On a des mini-portes qui donnent de manière assez discrète sur l'amphi qui est gigantesque avec un piano sur lequel on peut venir jouer de temps en temps le matin quand il n'y a personne. Et le petit couloir qui fait le contour de l'amphi. Je suis dégoûté parce que j'ai jamais eu de cours dans l'amphi Richelieu. Je fais droit à philo et comme beaucoup de mes camarades, on a été assez déçus par la découverte du centre PMF. On retourne sur le grand couloir qu'on voyait à l'intersection tout à l'heure, qui mène jusqu'à un grand escalier sur lequel je me suis déjà cassé la figure parce que, je sais pas, je suis maladroit. Avec tout le long du mur, encore plein d'affiches que personne ne lit jamais. Et c'est à peu près tout.
Merci Clara pour cette superbe carte postale. Par contre, moi je veux pas qu'on critique comme ça littéralement le couloir devant le studio en fait. Bref, sur ce, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Merci à Maqueta, interviewée par Romain.
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi.
Et on peut aussi remercier toute l'équipe qu'on retrouve enfin
dans notre placard à balais. Bonsoir à Mathilde.
Eh bien bonsoir et puis enfin, merci bonsoir. Pour cette effi... Oui bah bonsoir, ça va dans les deux sens. Hein. Bonjour, bonsoir. Merci. Merci à tous et on se retrouve bientôt.
Absolument. Bonsoir Nico aussi à Lavinia.
Bonsoir, bonsoir. C'était vraiment un plaisir. Vraiment super duo. Mais moi, je pense qu'il faudrait alterner. Vraiment. J'ai... Oh là 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 là.
Je suis pas d'accord.
En fait, alors juste.
Oh là là là.
C'était
là
le but
là
à la base, mais personne n'est assez bon. Voilà, je l'ai dit.
Je me tais.
Je suis bien d'accord. On a repris les rênes. On garde bien.
Bisous, je vous aime les filles.
Bonsoir aussi à Romain.
Bonsoir et merci à tous. Et c'était une super soirée. Et, bonne Pentecôte, c'est ça?
C'est pas Pentecôte.
Non, lui, mais c'est.
Ah, c'est ton adieu.
Bonsoir aussi à Elias.
Eh ben, merci beaucoup pour cette super émission, des super interviews, des super chroniques. Demain, du coup, l'anniversaire de Clara.
Ya, venez tous.
Et ce à quoi tu fais allusion, c'est la libération de Paris.
Ouais, merci.
Bonsoir aussi à Clara, pardon, j'en parle.
Du coup.
Bah, merci à vous les filles. Je remercie aussi Robin pour la petite visite des couloirs de la Sorbonne. Et je demanderai Swan à ce qu'on mette des petites moulures sur les couloirs du studio.
Ouais, hein, on va habiller ce.
On va régler ça.
On va voilà. S'en occuper. Bonsoir aussi à Thomas Chenel qui. Bon! Devait gérer l'émission, mais plus.
Ouais, je suis déjà parti en week-end, moi, le 8 mai. Là, je fais le pont avec le 1er mai, puis avec l'ascension.
Ah, ben d'accord.
On se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines.
Mais d'ici là, ne jugez pas trop les looks de vos stars préférées au Met, parce qu'on sait que vous aussi vous étiez en pyjama. Essayez de ne pas trop prendre la flotte non plus, ce serait bête d'être malade en mai. Hashtag loser.
Soyez vous-même.
Soyez fous même.
Restez curieux.
Restez avec nous, on vous aime. Bisous, ciao.
Ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, qui pexe, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ah, ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit. Où,
j'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.